Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent vous raconter tous les jeudis matins leur parcours vers leur succès. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine je vous propose de découvrir le parcours de Rémi Perla, le fondateur d'Epopia. Epopia propose d'envoyer des histoires par courrier aux enfants qui ont entre 5 et 10 ans. Le premier courrier qu'il lui a envoyé lui propose de devenir la reine ou le roi d'un royaume magique. Il reçoit une couronne, il va devoir prendre son stylo, un papier et répondre par écrit dans un courrier pour déterminer la suite de l'histoire. Ensuite, un vrai auteur répondra à votre enfant et ainsi de suite. Cette idée folle de vouloir remettre un stylo dans les mains de nos enfants et de leur faire envoyer des lettres par la poste, c'est Rémi qui l'a eu. Faut dire que Rémi, c'est un grand rêveur et un fan absolu d'histoires qui font rêver, et notamment de Disney. Vous verrez, on en parle pas mal dans cette interview. Par exemple, le but de Rémi dans 5 ans, avec Epopia, ça serait de proposer à J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, de proposer le 9e tome des aventures de son sorcier sous la forme de son système d'histoire interactive. Si vous aimez les interviews enlevées avec des gens passionnés, celle-ci devrait vous plaire, et merci beaucoup à Romain de m'avoir contacté pour que j'interviewe son boss, ça valait vraiment la peine. J'espère que cet entretien vous plaira, je vous donne rendez-vous jeudi prochain dès 6h du matin dans ce podcast pour une nouvelle histoire de succès. Mais d'ici là, abonnez-vous à ce podcast, mettez-lui une bonne note sur votre appli de podcast préféré, venez aussi mettre un commentaire sur www.histoiredesucces.com. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode et venez vous abonner à ma newsletter, c'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast si vous l'aimez. Je vous souhaite de passer un très très bon moment en compagnie de Rémi.
La terre,
voilà.
Bien joué.
En général, je fais une petite intro pour expliquer un petit peu qui tu es, etc. Et puis un peu ce dont on va parler, mais ça sera une intro ou off. Et puis on se lance tout de suite dans l'interview.
Oui, parce qu'en général, ça part cash en mode « Ah bon, c'est enregistré ?»
Bah voilà, on est parti. On est avec Rémi, salut Rémi.
Salut.
Ça va ?
Ça farte.
Ça farte ?
Carrément.
Ça farte. Ça fait longtemps que j'avais plus entendu « ça farte
». Désolé, je suis bloqué dans les années 90.
T'es un fan de Brice... Non, c'était quand Brice?
C'était Bryce and Ice.
Ouais,
oui, je sais pas, oui, début 2000. Mais...
2000, hein, non.
Non, je suis pas un fan, mais par contre, j'aime bien rester bloqué dans... Moi, je dis encore Prise de tête et Laisse béton. Je suis un peu old school comme garçon.
Ah ouais, c'est fort. Mais pourquoi?
Je sais pas. Là, j'avoue, je sais. Ouais, j'ai un petit côté nostalgique assez puissant.
Ah, d'accord, ok.
Et même sur les expressions, avec mon fils, on parle verlan parfois.
Ça, pour le coup, après, ça dépend. C'est comme verlan, quoi. Il y a quel âge ton fils?
Le grand a 8 ans.
D'accord. Donc, il est pas encore dans le game du collège, tu vois, où il faut être.
Non. Petits enfants, petit problème. Ouais.
Bon, merci beaucoup Rémi de venir, en tout cas c'est cool.
Merci pour l'invite, ça me fait vraiment plaisir.
C'est Romain qui est un de tes salariés si je me trompe pas, qui m'a envoyé un message dithyrambique en me disant que ça serait génial que tu viennes parler dans mon micro. Donc merci beaucoup Romain, c'était cool. Romain qui est dans la pièce, hein, si jamais vous l'entendez.
Et qui est un grand fan.
Qui est un grand fan de...
De toi.
Ah bon? Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit... Mon Dieu, je suis à la masse. En tout cas, merci de venir. Il m'a raconté que tu avais monté une boîte dont j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu le parcours. Mais avant ça, j'aime bien en général rentrer dans l'enfance de mes invités. Donc Rémi, est-ce que d'abord tu peux te présenter un peu rapidement et puis après on va parler de ton enfance?
Alors bonjour, je m'appelle Rémi, j'ai 37 ans, je suis papa de 2 enfants et je suis de formation informaticien. Et puis donc maintenant, je suis dirigeant d'une boîte qui s'appelle Epopia et où on s'éclate bien.
Ok, on va parler un peu plus d'Epopia juste après. À quoi il ressemblait Rémi quand il avait 7-8 ans?
Alors j'étais plus beau que maintenant.
Non, parce beau, que enfin...
Le nez a poussé pendant l'adolescence alors. Et sinon, j'étais plutôt... Alors j'étais accro à la télé, ça c'est un de mes trucs... Ce qui fait qu'aujourd'hui, je connais encore par cœur tous les génériques de dessins animés des années 80 et 90.
Club Dorothée et tout, c'est ça?
Ouais, ouais, mais à fond. Et j'étais, je sais pas, après, je lisais plein de BD et j'étais un enfant assez normal, en fait, je pense.
Quel genre de BD?
Les classiques. Astérix, Lucky Luke, Gaston et autres Boule et Bill.
D'accord.
Ouais, non, j'étais quelqu'un d'assez classique, je pense. J'en sais rien, en fait. Ça dépend de l'âge. Il y a des âges où j'étais plus tordu que d'autres.
C'est quand est-ce que t'as commencé à devenir tordu?
Ouais, c'est peut-être plutôt au collège où j'ai commencé à être bizarre.
Ça veut dire quoi, bizarre?
Non, mais alors, en fait, il y a plein de trucs. Alors, quand j'étais gosse, alors moi, je suis dyslexique, dysorthographique. Donc, du coup, ça m'a aussi pas mal forgé parce que, du coup, j'ai connu pas mal d'échecs scolaires. Et donc, dans ma jeunesse, l'éternel dernier de la classe.
Ah ouais.
Et pourtant, j'étais pas con, hein. Je comprenais bien. Oui. Mais arriver à aller au contrôle, c'était la lose.
Parce que tu veux dire, t'arrivais pas à le formuler correctement, c'est ça, sur le papier ou...
J'avoue que je sais même pas dire pourquoi ça marchait pas, mais les commentaires des enseignants, c'était intelligent, a bien compris, mais il faut qu'il travaille encore. Enfin, on savait pas trop, je sais pas trop, mais bon, ça faisait partie des trucs. Et du coup, j'ai beaucoup connu l'échec scolaire. Et en vrai, en termes, de caractère, ça forge pas mal, parce que du coup, on devient vite le rigolo de la classe, on devient vite celui qui... Alors, j'étais beaucoup puni. Il y a tous les stratégies d'évitement des enfants en difficulté à l'école. Donc, ça me définit pas mal. Ce qui fait aussi que je lisais plutôt des BD que des livres et ce genre de choses. Mais ouais, sinon, j'étais un mec plutôt sympa.
Et tu disais au collège, tu commences à devenir bizarre, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors... J'ai plein de trucs, ouais. Alors, dans ma jeunesse, j'étais aussi un grand fan de Michael Jackson.
Ok.
Donc, ça veut dire aussi que je connaissais toutes ses chansons par cœur, que j'avais les cheveux longs. Au collège, j'ai commencé à les laisser pousser, ce qui passait assez mal. Et parce qu'au début, ça faisait Jackson 5 avant de faire... En fait, j'ai fait la même parcours que Michael Jackson. Et puis, j'étais un fan aussi inconditionnel de Disney. Donc, je connais toutes les chansons de Disney par cœur. À un moment, je me suis... amusé à essayer de me faire un auto-blind test. En une minute, j'arrivais à en reconnaître plus de 30. C'est-à-dire qu'il me fallait moins de 2 secondes pour... À la première note, j'arrivais à reconnaître la plupart des chansons.
Ok.
Je me suis dit, putain, il y a un truc là. Mais en fait, il n'y a pas de truc, mais ça m'amusait. Ouais, je suis un peu bizarre.
Non, je suis en train de réfléchir, mais c'était une façon pour toi de te réfugier dans cet univers-là, c'est ça ou...
Je sais pas, je suis un peu un bisounours dans ma tête. Et les histoires où il se passe des trucs de ouf, mais à la fin, au final, les gens t'y gagnent quand même, c'est un peu mon univers. Okay. Ouais. Un jour, j'ai rencontré c'était bizarre, j'étais dans un théâtre. Je tractais des trucs pour Epopia. Ça, c'est un théâtre pour enfants. Et il y a un comédien qui me voit, fait ouais, machin. Et donc, du coup, tout ça. Et au bout de 3 phrases, il me regarde, il me fait, mais toi, t'es un fan de Disney, hein? Je fais, ouais. Mais toi, tu vis dans un monde complètement à part. Et il avait réussi à calculer ma personnalité, mais en 3 phrases, je sais pas comment il a fait. Apparemment, ça transparaît que je vis pas sur Terre.
Et t'es toujours aujourd'hui fan de Disney?
Ouais, complètement. Ouais.
T'as pas lâché ça en cours de route?
Non. Après, quand je dis fan de Disney, ça dépend lesquels. Il y a des hauts et des bas dans la vie de Disney.
C'est quoi ton top 3 des dessins animés de Disney pour toi?
Aladdin, Le Roi Lion. C'est là le troisième, c'est là que ça devient plus chaud. Mais je dirais quand même, Soyons fous, La Reine des Neiges.
Ok, donc
je kiffe La Reine des Neiges.
Plutôt des trucs modernes par rapport à quand t'étais enfant, alors, parce que
vachement mieux en vrai. Oui. C'est la mi-période, c'est la renaissance. C'est la renaissance dans les années 90 après la période trop loose. Mais en vrai, c'était bien supérieur à Blanche-Neige. Regardez Pinocchio et Blanche-Neige, franchement, c'est pas la même chose que Aladdin ou La Belle et la Bête. Hein. Mmh. On n'est pas dans le même univers.
Ouais, c'est clair. Mais nous, on a bouffé ça. Enfin, moi, j'ai 42, hein, donc on est bientôt 42, donc on n'est pas très très loin finalement, quoi. On a plutôt bouffé La Belle et la Bête et la Blanche-Neige que...
Toi, t'as été la génération Bernard et Bianca et, ouais, et Oliver et compagnie et les trucs vraiment moisis.
C'était à chier. Hein.
Ah, c'était le moment où ils s'étaient perdus. Mais ils se sont retrouvés à un moment. C'était bien. Heureusement.
Comment ça se passe au lycée?
Au lycée, j'avais les cheveux longs. J'étais encore un mec chelou. Je montais plein de projets tout le temps. J'étais le mec... Enfin, t'as vécu le lycée, hein. Ouais. Tu vois le moment où tout le monde se met à picoler, tout le monde fume, ouais. Et ça devient en fait, c'est le truc in. Si tu fumes pas, t'es personne.
Ouais.
Moi, j'étais le mec que tout le monde kiffait et qui fumait pas. Et c'était assez bizarre parce que j'avais dans ma résistance à tous les trucs. Enfin, en fait, moi, je me définis. Enfin, je suis un rebelle. Je déteste faire ce qu'on attend de moi. Donc, quand tout le monde attendait de moi que je picolais pas. Et quand tout le monde attendait de moi que je fumais pas. Mais malgré tout, ça passait bien. Et après, je montais plein de projets. Je voulais monter des films, des pièces de théâtre, des... J'écrivais beaucoup à l'époque et je faisais du jeu de rôle aussi, pas mal.
Ok.
Gros background de jeu de rôle.
Genre Donjons et Dragons et tout ça.
Alors j'ai fait du Donjons et Dragons, j'ai fait du Star Wars, j'ai fait du Ambre, beaucoup de Ambre. Et j'ai fait aussi du Cthulhu et j'ai fait des trucs comme ça, beaucoup de choses très différentes. Mais c'est un truc qui m'a vachement forgé dans les morceaux où j'étais un peu bizarre au collège. Alors, je sais pas si tu connais un peu l'univers d'Ambre de Roger Zelazny.
Pas trop, non.
Non, mais c'est un truc avec c'est un univers infini où tout l'impossible existe. Et du coup, j'avais monté un culte de la licorne et j'étais un gourou et j'avais plein de gens dans la classe qui me suivaient et on faisait des parties de jeux de rôle avec la moitié de la classe entière. Et...
Donc, t'étais un peu le meneur, enfin, t'étais le meneur de jeu dans le.
Ouais, j'étais maître du jeu, ouais.
Maître du jeu, on dit, pardon. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui. Alors. J'ai l'impression que t'as de tout ce que tu me racontes, c'est plutôt artistique, quoi, tu vois, on va dire tes envies, en tout cas tes velléités, et tu termines par faire une formation d'informatique, d'ingénieur, c'est ça?
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe? À quel moment tu vrilles?
Alors, il y a deux logiques. La première, c'est comme je l'ai dit, je déteste faire ce qu'on attend de moi. Au bac, j'étais en S, spé maths co F9, j'ai eu 4.
Ah ouais.
Donc je me suis dit allons faire une fac de maths parce que en vrai c'est là où on m'attend pas.
Parce que ça t'intéressait pas ou vraiment tu t'en sortais pas?
Ça me parle pas beaucoup les maths. Mais du coup je suis allé faire une fac de maths parce que ouais je suis un peu bizarre je dis.
Mais pourquoi?
Et alors aussi l'autre truc c'est que j'étais dyslexique, dysorthographique, ouais. Ce qui veut dire que quand je rends une copie à peu près j'avais 25 fautes par paragraphe et dans à peu près toutes les matières c'est éliminatoire. Hein. On peut pas aller faire ni des lettres ni de la géographie ni de la philo ni aller faire Sciences Po ou quoi que ce soit parce que c'est éliminatoire. On se fait saquer. Et en fait, le seul endroit où l'orthographe, c'est pas un problème, c'est les maths et l'informatique.
Ah oui, donc c'est plutôt... Ça
a été un mix. J'ai dit, bon, bah, allons là-bas, du coup. Et en vrai, l'informatique, on pense que c'est de la science, mais en fait, c'est aussi de l'art. C'est un nouveau langage. Donc, c'est une manière de faire des choses en trouvant la bonne voie. C'est assez artistique, en fait, l'informatique. On se rend pas compte.
Alors, je te rejoins totalement, si tu veux, parce que j'ai moi-même pas mal codé tout ça. Donc, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais c'est juste que, de base, le lien se fait pas forcément automatiquement, quoi, tu vois.
Ouais, il y a un cheminement.
Très bien. Qu'est-ce qui se passe alors ensuite tu passes ton diplôme c'est ça d'ingénieur
alors ça a été plus long que ça parce que naturellement comme je fais jamais les choses qu'on attend de moi j'étais en fac mais j'allais pas beaucoup en cours et à la place je m'engageais vachement dans tout le milieu associatif donc j'étais président d'amicale, j'étais vice-président de fédération de ville, j'étais élu au conseil d'université, j'étais vice-président d'université en charge des affaires étudiantes.
Vice-président d'université, enfin, quoi?
Ouais. L'université est dirigée par un bureau avec un président et des vice-présidents affaires internationales, budget, ressources humaines. Et il y a un vice-président à la vie universitaire et à la vie étudiante qui, du coup, est un étudiant et c'est le seul qui n'est pas un enseignant. Et du coup, bah, j'ai fini vice-président de mon université pendant 2 ans. Et tout ça a fait que mes 5 ans d'études sont devenus 8. Parce que du coup, j'ai fait 2 deuxièmes années, 2 troisièmes années, 2 quatrièmes années. Mais parce que je faisais vraiment autre chose de ma vie, en fait, que les études.
Ça t'intéressait pas trop, tes études?
Bah, c'est juste que ça suffisait pas pour m'accomplir. J'avais besoin de plus. Ouais, c'était pas... Juste passer ça. Je l'ai fait la première année. J'ai fait la première partie de la première année juste dans la cafette à jouer aux cartes. Ça m'a vite blasé. J'ai fait l'autre partie de la moitié de la première année à être dans la bibliothèque. Ça m'a vite blasé aussi. Il me fallait autre chose, ouais. Donc, je veux bien faire des études, mais je pouvais pas faire que ça.
D'accord. Et c'était quoi les assos dans lesquels tu t'engageais?
Alors moi j'étais d'abord comme j'étais en fac de maths info, j'étais dans les amicales de mathématiques et informatiques. Donc j'organisais les soirées, puis après j'organisais des trucs plein de trucs autour de tout ce qui est social, des récoltes d'argent pour l'association des paralysés, des trucs pour le site d'action. Après je suis devenu président, j'ai organisé des bouffes. Enfin j'ai beaucoup de fédérer en fait, faire en sorte que les étudiants au sein de la fac se connaissent et se fréquentent les uns les autres. Donc des grands repas de promo, je lançais un journal tous les mois, beaucoup de choses. On a été très 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 actifs. Et ensuite après je suis monté à la fédération de ville. Donc ça fédère toutes les amicales d'une ville, donc ça représente les étudiants et là j'essaie pareil le réseau de faire en sorte que les assos travaillent ensemble et qu'on arrive à monter des nouveaux projets pour aider les étudiants. Parce que du coup, on fait beaucoup d'animation, mais on fait aussi beaucoup d'aide sociale. Parce que du coup, il y a aussi des élus au CROUS, donc tout ce qui gère les aides sociales aux étudiants. Et dans les universités, on se défend beaucoup pour que le fonctionnement de l'université soit inclusif et permette de donner une parole aux étudiants, qu'on défende leurs intérêts aussi et pas que ceux des enseignants ou des chercheurs ou d'autres. Enfin, ouais, il faut donner un peu la parole à tout le monde.
Donc déjà un fonctionnement ou un état d'esprit très entrepreneurial en fait, même au sein, ouais, au sein de la fac, quoi.
Ouais, mais de toute façon, quand j'étais petit, mon rêve c'était de devenir un inventeur.
Ok.
Donc de toute façon, j'ai toujours voulu créer des trucs. C'était okay. Donc ouais.
Bon, et comment tu termines ta fac donc quand t'avais environ 35 ans?
Non, mauvaise langue. 2009, j'avais 20. Ça fait combien ça? 27 ans?
Ouais. Ouais. Tu dis un peu.
C'était il y a 10 ans, seulement. Ah ouais, c'était il y a 10 ans. Ouais, en fait, ça fait que 10 ans que j'ai fini mes études. Là, je viens de me rendre compte, je pensais que ça faisait 15, mais non, ouais.
Bah, t'es un peu traîné, c'est toi qui le dis. Donc...
Ouais, c'est vrai.
En même temps, j'ai pas l'impression que t'aies perdu ton temps. C'est-à-dire que c'est pas comme.
Ah non, mais j'ai appris énormément, ouais, tout ce que je fais aujourd'hui. En fait, j'ai plus appris à côté de la fac qu'à la fac. Donc, ouais, non, complètement. Je changerai rien de tout ce que j'ai fait.
Et en fait, c'était quoi ta. Parce que je pense par exemple aux étudiantes et aux étudiants qui sont en train de nous écouter et qui peut-être s'emmerdent dans leurs études, parce que c'est très possible. Enfin, moi, j'ai fait un an de fac avant de, dans une vraie fac, en fait, à Lille 3, là, avant d'aller dans un truc qui était encore la fac, mais plus petit, plus promo. Enfin, tu vois, ça ressemblait un peu, c'était un peu moins inhumain. Et en fait, je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est-à-dire que l'aspect impersonnel là-dedans est fou, quoi, tu vois, vraiment. Comment t'as fait, toi, pour trouver le moyen d'y aller, en fait. T'es rentré, t'as fait toc-toc, bonjour.
À la rentrée universitaire, de toute façon, il y avait déjà des assos qui nous accueillaient,
ah oui,
qui faisaient des animations, qui essayaient de nous aider à nous faire rencontrer. Bah, passé la rentrée, je suis allé les voir, je fais OK, et on peut vous aider. Okay. Et puis voilà, l'année d'après, j'avais un poste, l'année d'après, j'avais la présidence, et puis, ouais, en plus, derrière ça, il y a quand même pas mal de, enfin, parce que, au-delà du fait que c'est impersonnel, c'est un peu comme dans l'entrepreneuriat. Chez les étudiants, le fait que les gens soient isolés, que les gens se parlent pas, ça a plein de problèmes. Enfin, il y a beaucoup de suicides, il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance. Et s'ils sont pas assez entourés, s'ils arrivent pas à se faire des potes, s'ils arrivent pas à avoir une vie sociale, ça se voit pas, ça se détecte pas et ça finit par des drames et des vies gâchées. Donc, le fait de pousser les gens qui parfois viennent de loin, qui ont changé de ville pour venir, qui connaissent personne, de leur permettre d'avoir un endroit où ils arrivent à rencontrer du monde et à se créer un tissu social, bah, ça casse cet isolement et donc c'est, bah, ouais, ça aide les gens aussi.
Sorti de la fac, donc, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu te dis, je vais trouver un job salarié?
Alors, ouais. Déjà, à la fac, de toute façon, j'avais qu'une envie, c'est de monter des projets.
Okay.
J'avais plein d'idées de projets, mais bon, des trucs, ça avait l'air chelou. Et puis, je me suis dit, j'ai fait en fait l'erreur basique que font la plupart des jeunes qui sortent de fac et qui veulent monter des boîtes, c'est non, mais il faut d'abord que je prenne du galon, donc il faut d'abord que je montre, ouais, que je fasse mes preuves, que j'ai de l'expérience, comme ça après les gens me suivront mieux. C'est bizarre de débarquer en disant t'es personne, allez suivez-moi. Donc j'ai commencé par aller bosser en entreprise et donc en sortie d'informatique, on commence toujours en société de service, en SS2I. Maintenant ça a changé de nom, je sais plus ce que c'est le truc, mais ça s'appelle plus une SS2I.
Okay.
Et donc on fait des missions pour des boîtes qui ne veulent pas embaucher, mais qui veulent avoir des informaticiens externes. Et donc j'ai bossé chez Alcatel et j'ai travaillé sur les services de ressources humaines. Alors, c'est typiquement le bullshit job. Tu connais le concept du bullshit job?
Ah oui.
Ah, donc
le
bullshit job, c'est quand en soirée, les gens demandent tu fais quoi dans la vie et que tu fais non, mais c'est compliqué, parlons de toi plutôt. Voilà, donc je gérais les services de ressources, le système informatique de ressources humaines d'Alcatel Monde. Ouais, vous voulez pas savoir ce que ça veut dire derrière.
Okay.
Ouais, on passait notre temps à démonter le projet qu'on avait monté le mois d'avant, ouais, et la politique changeait tout le temps et les systèmes changeaient tout le temps et c'était pas intéressant.
J'imagine que tu devais être hyper épanoui dans cet environnement.
Ah bah ouais complètement. Surtout que tout se passe à la machine à café, comme je fais rien comme personne, je bois pas de café, ou à la pause clope, et comme je fais rien comme personne, je ne fume pas de clope, donc. Mais ouais non, c'était pas.
Tu bon, restes combien de temps salarié?
4 ans.
Okay. Ah oui, quand même.
Ouais, bah c'est ce qu'il faut, quoi. Histoire de se faire un. Non, mais en vrai, très vite, très vite, de toute façon, sur mon temps libre, je faisais tout autre chose. Hein. J'écrivais des bouquins, je faisais d'autres trucs. De toute façon, je m'épanouis. Enfin, ouais, je faisais pas que ça, sinon c'est mortel. Donc j'ai toujours eu plein de projets à côté.
Et qu'est-ce qui fait que tu continues à bosser pendant 4 ans? C'est long quand même, 4 ans, dans un job qui t'épanouit pas, alors que t'as fait plein d'autres choses auparavant. Ça devait être un peu une sorte de descente assez violente, non, par rapport à la fac notamment, où tu avais une vie sociale.
Non, pour moi, non, c'est une phase de transition. De toute façon, j'avais déjà des idées en partant de la fac, mais j'avais pas trouvé le bon.
Okay.
J'avais pas encore le projet qui allait me donner envie de tout claquer. Et je suis quand même quelqu'un qui cherche la sécurité. De base, je suis plutôt un écureuil. J'aime bien garder, j'aime bien, je jette rien. Je pars pas à l'aventure sans rien.
Ok.
Et du coup, ouais, j'étais encore dans une phase où je savais pas encore où j'allais. J'avais pas encore l'idée du siècle. J'étais pas encore chaud. Et j'avais pas non plus envie de faire carrière. J'étais pas en train de me dire, je vais changer de boîte pour monter dans les échelons et gagner plus d'argent. Ça m'intéressait pas plus que ça. Je dis, apprenons déjà ce qu'il y a à apprendre. Et donc, j'essayais surtout d'apprendre déjà sur là où j'étais. Et j'ai quand même beaucoup appris de l'équipe avec laquelle je bossais, beaucoup appris du patron de la société de service avec laquelle je bossais, Benoît, qui du coup investit après dans la boîte au début. Et j'ai vachement appris de ce qu'il faisait. J'ai aussi, parce que je bossais pour Alcatel, j'ai appris aussi quelle boîte je voulais pas créer. Donc tous les process, une grande boîte, dès qu'il y a une décision à prendre, il y a 5 gates et ça prend 6 mois, c'est l'horreur. Et je voulais surtout, voilà, j'ai aussi découvert tout ce que je voulais pas faire dans ma vie.
Ouais.
Et en fait, avant de monter une boîte, c'est bien de savoir comment marchent d'autres boîtes. Donc j'ai pu voir la petite boîte, la S2I, j'ai pu voir la grosse boîte, l'Alcatel, et ça m'a vachement aussi appris sur ce que je voulais et ce que je voulais pas.
Il y a Romain qui m'a fait une bio extrêmement détaillée de toi, qui m'a dit qu'en fait, tu avais eu l'idée des lettres, mais dont on va reparler après parce que c'est tout l'objet de ta boîte, en 2010. Donc assez rapidement après ton diplôme, non?
Exactement.
C'est ça?
En fait, l'idée est venue assez vite, c'est vrai. C'est pour ça quand je dis que j'ai beaucoup de projets à côté, ouais. Ça a jamais arrêté de carburer. J'étais jamais dans ma tête fixé en mode je vais faire une carrière dans l'informatique. De toute façon, je cherchais ce que je voulais faire. Je suis en 2010, donc ça fait un an que je bosse à peu près... en société de service là pour Alcatel, et alors je bois pas de café, mais j'accompagne quand même les collègues à la machine à café, sinon j'ai pas de vie sociale, faut pas déconner. Donc je vais à la machine à café, je les regarde boire du café tous les matins.
Tu prenais pas un jus de tomate
comme tous les gens qui n'aiment pas le café
qui boivent des jus de tomate?
Bah non, parce que le jus de tomate c'est pas terrible non plus. Moi je bois encore du Nesquik le matin. Voilà, je suis encore au Nesquik.
C'est mignon.
J'aime bien faire de la pub, hein, merci pour le placement produit. Mais le chocolat à la machine à café, c'est de la flotte avec un truc dégueu dedans. Donc non, je préfère ne rien prendre. Mais parfois, je les accompagne avec un chocolat chaud, mais enfin de la flotte chaude. Donc okay. Et la machine à café en entreprise, il y a trois sujets. Je dis trois jours au pif, après je réfléchis ce que c'est. Mais l'immobilier, t'achètes une maison ou pas, les enfants... Et le troisième, du coup, je sais plus ce que c'est, mais il y a toujours la bagnole ou non, et l'émission de télé qu'on a vue la veille, qui a été éliminée chez The Voice. Et,
les loisirs, quoi.
Voilà. Et c'est un peu les trucs qui tournent en boucle. Et bon, de toute façon, je suis dans une phase où, ok, why not. Mais un jour, à la machine à café, du coup, j'ai une de mes collègues, salut Nathalie, qui commence à parler de ses enfants. Alors là, je te le fais... parce qu'après il y a le storytelling. Alors le storytelling, il raccourcit le truc. Alors je sais pas si tu veux la version longue ou
la version longue. On est parti pour une heure là, toi et moi, donc tu peux y aller. Hein.
Je te fais la totale. Elle a un enfant qui fait des terreurs nocturnes. Donc ça veut dire qu'il se réveille. Il a 3 ans. Il se réveille tous les matins, toutes les nuits en hurlant, et il faut 1 heure pour le calmer. Le cauchemar, surtout quand on a eu des enfants et que du coup on n'a pas dormi pendant 1 an et qu'à un moment ça y est, on peut de nouveau dormir et que d'un coup ça se réarrête. Ah, le truc crispant. Enfin, du coup, à cette époque-là, j'avais ma femme enceinte et tout, j'étais en grande compassion en me disant, mais non, on a arrêté de dormir et d'un coup il faut se remettre à plus dormir, c'est pas possible, la pauvre. Et elle, enfin ouais, ça durait quoi. Et je dis, mais comment est-ce qu'on peut l'aider? Comment est-ce qu'on peut l'aider? Et je dis, tiens, et s'il y avait un magicien qui envoyait une lettre à l'enfant en lui disant, j'ai chassé, avec ma magie, j'ai chassé tous les cauchemars, les monstres, plus personne peut t'embêter. Un truc qui essaye d'aider l'enfant, en fait, à sortir du cauchemar. Et puis, ouais, j'y réfléchis pas mal. Et puis, à un moment, je me dis, bon, en vrai, si jamais ça marche pas, parce que ça va marcher, en vrai, ça va pas suffire. Mais quand il se réveille, il y a la lettre et il se rappelle que quand même il est protégé. Peut-être que ça pourra au moins aider à le calmer et pas que ça dure 1 heure pour le recalmer. Et puis après, je lui dis, ouais, en fait, il a 3 ans. Se projeter sur un courrier, c'est un peu compliqué. De toute façon, il peut pas le lire lui-même. Enfin, c'est un peu trop conceptuel. Par contre, s'il avait 1 ou 2 ans de plus et qu'il pouvait y répondre et qu'en plus, s'il répond, et ben, les gens lui répondent et que ça pouvait faire une histoire et qu'en fait, il deviendrait et en fait, non, mais il y a un truc génial là à faire. Là, je lui dis, mais, Wow, là je sens un truc que j'aurais trop voulu avoir enfant, il faut que je le fasse.
Ok.
Et c'est un peu comme ça qu'est né le concept d'Epopia.
Et tu restes encore 3 ans à mûrir cette idée, c'est ça, entre le moment où...
Alors non, d'abord
cette idée-là et
j'ai l'idée et dès que j'ai l'idée, je me dis bah on va voir, on va tâter le terrain. Donc j'ai ma femme était enceinte dans cette période-là et en fait il y a eu la naissance de mon premier enfant et pendant mon projet de paternité, je codais ma première version du truc, j'écrivais mes premiers textes, je cherchais et en fait j'ai passé 1 an en roue libre tout seul à faire une maquette du produit. Donc j'ai écrit des textes, j'ai donc les premiers courriers. une belle histoire. J'ai codé un logiciel qui permettait de gérer ça, parce que s'il faut pouvoir le, ouais, il faut pouvoir gérer l'histoire de chacun et pas que ça se perde. Donc, qui organise un peu les textes. J'ai fait mon étude de marché. J'ai essayé de commencer à voir comment, enfin, ouais, j'ai un peu tâté le truc pendant un an. Et au bout d'un an, je me suis dit, OK, j'ai un truc là, ça commence à avoir de la gueule, je vais l'envoyer à des profs. Comme on est, j'accompagne quand même le truc, ça, le but c'est vraiment de faire rêver l'enfant et à travers ça on le fait rentrer dans la lecture, dans l'écriture, dans l'imaginaire. Et donc je vais le montrer à des profs pour voir si ça colle, si pour des enfants c'est top. Enfin,
des voilà. Profs que tu connais donc.
Ouais,
c'est
des,
ça,
des potes de la fac qui sont devenus profs. Et du coup je leur envoie les premiers courriers, je leur explique le concept et ils m'ont envoyé des trucs en mode ouais, mais alors tu vois, grammaticalement parlant, il faut d'abord amener tel concept avant tel concept parce que en plus tellement telle tâche d'âge, alors, c'est plutôt tel truc qu'il faut d'abord faire. À l'époque je me dis oula, c'est compliqué là. En gros, je pense que c'était parti en mode manuel. On n'est pas une méthodo pour apprendre à lire, quoi. Je dis oh là là, en fait ça a l'air trop compliqué. Du coup j'ai enterré le truc. Je dis enfin c'est trop compliqué. Je vois pas si les gens qui sont face aux enfants me disent ouais t'es loin du truc. Je dis bon, ok, peut-être que j'ai pas vu le truc donc je l'enterre. Et c'est pas grave. Et puis c'est pas grave, non, bah c'est pas grave. J'ai une idée, bon finalement c'était pas la bonne.
Waouh.
Ouais. Et puis voilà, c'est comme ça qu'est né et mort Epopia. Merci, c'était sympa de m'avoir invité. Et donc, ouais.
Ok. Mais alors, qu'est-ce qui fait que... Ok, j'ai des questions. Qu'est-ce qui fait que toi, qui n'as jamais fait comme ce qu'on attendait de toi, à un moment donné, t'écoutes l'avis de personnes, alors certes, j'entends bien expertes dans leur domaine, mais sans suivre ton feeling à ce moment-là, quoi.
En fait, ça fait un an déjà que je suis mon feeling, que je fais le truc... Et en fait je le fais un peu en roue libre, moi je me fais mes films, je me fais mon truc, je me dis ça va plaire, et en fait j'ai fait toutes les erreurs qu'il faut pas faire dans l'entrepreneuriat, hein. Je suis parti en roue libre tout seul et à un moment bah, je me dis allez, ça y est, maintenant je suis mûr, je vais au moins aller prendre un avis, et le premier avis a été tellement une claque. Alors, en vrai ils étaient très sympas, hein. Mais moi je l'ai pris comme une claque parce que du coup ça remet en cause un peu tout ce que j'ai fait, toute l'année de travail, j'ai pas vraiment de recul, je sais pas encore prendre le truc bien, enfin et je me dis juste en fait bon bah, apparemment c'était pas une si bonne idée que ça, est-ce que j'ai envie de mettre l'énergie de recommencer tout, est-ce que je sais pas, sur le coup ça faisait déjà longtemps que je bossais, j'avais d'autres trucs à faire pour le boulot, je me dis bon bah on verra ça plus tard.
Oui, parce que tu faisais ça à côté de ton taf.
Ouais. Mais il était pas mort enterré. J'ai juste dit, bon, bah, en fait, c'est peut-être pas la priorité. C'est peut-être pas la bonne idée. Faut peut-être que je prenne le temps encore de réfléchir pour trouver peut-être une meilleure idée. C'est peut-être que je suis pas allé au bout du truc. Et voilà, j'étais.
Ok.
Ouais. J'étais pas encore mûr.
J'entends bien. Il se passe combien de temps, alors, entre le moment où tu enterres ce projet-là et que tu finis par le déterrer?
Eh ben, en fait, un an. Okay. À peu près exactement un an. Je suis l'année d'après et j'ai un potes de fac, parce que du coup, comme j'ai fait de l'associatif, j'ai des centaines de potes de fac, donc
tu les as toujours autour de toi.
Quand les gens sur Facebook disent on peut pas avoir, quand on a plus de 100 potes, c'est plus des potes, mais c'est parce qu'en fait, on a 20 vrais potes et après le reste, c'est des connaissances. Quand on sort de la fac et qu'on a fait de l'associatif pendant 8 ans, on a vraiment 300 ou 400 potes et on les connaît tous et on les connaît vraiment. On a passé des soirées avec eux. C'est pas des gens qu'on a croisés une fois. Mmh. On a vraiment un réseau de folie. C'est assez puissant. Et du coup, j'ai un mec comme ça dans une de mes lignes où je suis qui dit, il y a un startup weekend. C'est un truc pour monter des boîtes. J'ai une place gratos, mais je peux pas y aller. Donc, est-ce que quelqu'un, ça l'intéresse? Je me dis, bon, c'est quoi ce truc-là? Alors, attends, on peut pitcher son idée devant des gens. Et si les gens, ça leur plaît, et ben alors, on monte une équipe et on bosse dessus tout le week-end. Il y a des coachs qui viennent nous aider à monter le truc et tout. Je dis, attends, j'ai ce vieux truc-là, je l'ai enterré. Est-ce que ce serait pas l'occasion d'aller prendre un autre avis et d'aller voir le... Est-ce que... Ouais, aller, mais pas face à des profs, mais face à du peuple, parce que du coup, c'est un public assez varié, aller voir, en fait, s'il n'y a pas un truc à faire. Je dis, allons tâter le terrain.
Tu l'avais pas tant enterré que ça, en fait, en vrai.
Bah, il était en sommeil, et là, je me dis, tiens, est-ce que j'ai vraiment été au bout? Et c'était vraiment... La question, c'était juste, je vais le tester une dernière fois, je vais le pitcher. En fait, on fait un pitch d'une minute devant un amphi de 200 personnes, et puis ça passe ou ça passe pas. Et si ça passe pas, bah ok, c'est pas le bon truc, quoi. Et du coup, je me dis, ok, go, j'y vais. Je déterre le machin, j'y vais, je me fais un t-shirt avec un petit logo avec un enfant qui tient une lettre, je me fais tout là. Je m'étais chauffé comme un, j'ai bien bossé mon pitch, il était, parce que c'est une minute et une minute, un pitch en une minute, si tu l'as pas préparé, tu te plantes. Donc je l'ai bien préparé, j'avais vu les règles, comment bien faire le truc. Donc j'étais chaud bouillant et je débarque, je suis roi du monde, j'y vais. Et donc je débarque à ce startup weekend où je connais personne et je pitch devant l'amphi. Et à la fin, du coup, les gens ont des post-it, ils ont 3 post-it, et après, donc il y a 40 personnes qui pitchent. Il y a plein de pitchs, et il y en a une dizaine, quinzaine qui survit à la fin. Et ils viennent poser des post-it aux endroits où ils aiment. Et je me retrouve avec une tonne de post-it. Donc les gens ont kiffé. à mort. Je dis, ouais, trop bien. Ok, c'est parti. Maintenant, l'étape 2, c'est convaincre les gens de venir vous rejoindre. Donc, il faut monter une équipe pour passer le week-end. Et là, personne. Mais genre, personne. Il y a un mec qui me dit, ouais, moi, je suis chaud. Rappelle-moi tout à l'heure, là, je reviens te voir plus tard. Et je dis, ok, c'est cool. Et puis après, les autres, ils passent, ils font, ok, c'est bien, mais... Moi, je suis informaticien. Qu'est-ce que je peux apporter là-dedans pour faire des lettres, machin? Moi, je suis. Ouais, enfin. En fait, les gens venaient et ils adoraient le projet, mais ils voyaient pas trop ce qu'ils pouvaient y apporter.
Donc, et... pour expliquer peut-être le Startup Weekend, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a des porteurs de projets qui viennent et après, tu rassembles une équipe parmi les gens qui sont dispo pour venir taffer pendant tout le week-end.
Il y a 200 personnes. Tous ceux qui veulent pitcher un projet, pitchent un projet. Ceux qui veulent pas, ne pitchent pas. Et à la fin, les gens, naturellement, dans les deux sens, se regroupent autour du 10-15 projets et vont passer le week-end à bosser ensemble. Et c'est pas forcément ceux qui... Enfin, même ceux qui ont pitché vont pas forcément sur leur projet. Et tu te retrouves avec des gens qui viennent d'écoles de commerce, des gens qui sont des graphistes, des informaticiens, vraiment des gens hyper différents et c'est hyper riche. Et
toi, tu te retrouves un peu...
Et ben, en fait, il y a personne. Bredouille. Mais genre, personne. Tout le monde dit « Ah, c'est génial, mais non, c'est bon, j'ai déjà une équipe » ou « Non, je vois pas trop ce que je peux apporter. » Et je me dis « Bon, c'est la loose. » Et à la fin, j'avais... personne, mais genre, et là je lui dis bon, j'étais un peu les larmes aux yeux, j'étais en mode bon bah je sais pas ce que j'ai loosé, mais c'est la loose et je voulais pas aller passer le week-end après, vraiment je l'avais bien préparé, j'étais vraiment au bout de ma vie, et puis je recroise le mec qui m'avait vu au début qui me dit bah alors c'est bon, je fais bah non franchement il y a personne, on est que tous les deux, en plus t'es informaticien, je suis informaticien, ça apporte pas grand chose, franchement je préfère pas te pourrir ton week-end, va rejoindre une autre équipe qui te plaît et puis tant pis, moi je vais rentrer chez moi et aller finir ma vie. et il me fait bah non, mais c'est bon, on le fait ensemble. Je dis non, mais on va pas le faire à deux. Enfin, fait bah si, on y va.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ok. Ça va pas te... Parce que moi, en vrai, j'étais en culpabilité. Je voulais pas lui passer un mauvais week-end alors que les autres trucs, ça va être hyper riche. On va rencontrer plein de gens et tout et qu'ils se retrouvent en tête à tête avec moi. Quoi. J'ai dit, bon, le pauvre. Il fait, non, si, moi, je suis chaud, on y va. Ok, du coup, on va voir les équipes organisatrices qui font, bah, du coup, on a distribué toutes les salles. Bon, bah, attendez, on va prendre des tables, on va vous mettre dans un couloir. On se retrouve dans un couloir à deux. Mais en vrai, c'est con. Mais en fait, c'est ce qui nous a, ça a tout changé. Parce qu'on est dans le couloir et donc, au lieu d'aller avec les gens, on doit venir nous voir. Tout le monde passait devant nous tout le temps. Donc, tous les coachs, on a eu tout le monde. Et en fait, ça a été hyper riche. Et j'en remercie. Donc, c'est Geoffroy, le mec, et c'est devenu mon cofondateur. C'est le premier qui a rejoint l'équipe. Et sans lui, en vrai, le truc se faisait pas. Le truc était vraiment enterré définitivement. C'est assez ouf. Et on a passé un week-end génial à enchaîner des nuits blanches. Parce que c'est un week-end, normalement, les gens rentrent se coucher. Mais nous, on était tellement chaud que, on a fait deux nuits blanches d'affilée, on était morts de chez morts. on a fait le truc jusqu'au bout et on a tous les gens qui venaient nous voir. On a eu des tonnes de conseils. On a eu du coup, il y a des coachs, des gens qui ont déjà monté des boîtes, des gens qui sont dans la com, des gens dans plein de niveaux. On a après les gens du jury, notamment, alors, c'était le kiff ultime, le mec qui a monté Caramel. Voilà, parce que vous avez tous dragué sur Caramel. qui a monté Caramel, l'anti-moinscher.com, et maintenant il fait Winamax avec Patrick Bruel. Donc c'est, comment il s'appelle? Bon, j'ai plus son nom en tête, mais je le kiffe à mort. Ça va me revenir, mais j'ai aucune mémoire des prénoms. Désolé. Et il est venu nous voir et il a kiffé à mort. Il était à fond dedans et il a dit, mais moi je suis client, allez-y, quoi, faites-le. Et voilà. Donc c'était vraiment, on a eu des vraies validations de gens qui ont monté plein de boîtes et qui ont dit, mais il y a un vrai truc. Et voilà, on est arrivé au bout de ce week-end, on a pitché après devant le jury et on a été lauréat. Et wow. On s'est dit, waouh, en fait, il y a un truc à faire.
Qu'est-ce qui fait? Est-ce que peut-être vous en avez reparlé, mais qu'est-ce qui fait que Geoffrey, c'est ça, donc ton
Geoffroy,
décide de te suivre à ce moment-là et décide en fait de t'envoyer bouler quand toi-même tu veux l'envoyer bouler.
Et parce que le concept des Popia, il est tellement ouf que lui, ça, moi je le fais parce que moi j'essaie juste de donner vie au truc que j'aurais trop rêvé d'avoir à être enfant. Et en fait, bah, ça a dû parler aussi à l'enfant, lui. Il a dit, mais son truc, c'est trop magique, il faut le faire. Je m'en fous de perdre un week-end. On essaye, c'est trop beau pour qu'on le laisse tomber. Il faut qu'on essaye de le faire, c'est trop génial. Et il est tombé amoureux du concept, ouais, comme moi. Donc on était tombé en amour.
Qu'est-ce qui fait que... Et donc, une fois que vous êtes sorti de ce week-end et que vous sortez lauréat du truc, c'est quoi la suite?
Bah, la suite.
Parce que là, t'as un projet. Ouais.
Ah, bah là, j'ai un projet, maintenant, c'est go, quoi. J'y vais, quoi. Donc, le truc, c'est d'abord de monter une équipe, parce qu'on est deux informaticiens, mais en fait, bah, pour.
Tu quittes ton job?
Pas tout de suite.
Okay.
Pas tout de suite. D'abord, on essaye de faire vivre un peu ça en même temps, parce qu'on a encore rien. On n'a pas. Alors après, la règle, c'est qu'on monte la boîte qu'au dernier moment, quand on est prêt à y mettre la première facture. Avant, ça sert à rien, parce qu'il y a des frais de boîte, alors qu'en fait, on vend rien. Donc, ça sert à rien. Donc, on fait ça à la cool. Et en fait, je rencontre plein de gens de réseau, par le réseau, notamment associatif. Je rencontre des gens qui me représentent des gens, qui me présentent des gens. Et comme ça, je recrute un écrivain, un illustrateur, un graphiste, qui sont encore tous dans l'équipe aujourd'hui. Hein. Bonjour Pierre, bonjour Corentin et bonjour Baptiste. et avec Geoffroy. Et en fait, on se met un deal, on fait un deal, bah ok, on va bosser, on va créer ce truc-là, et à la fin, tout ce qu'on aura fait, bah on va le valoriser, ça fera des parts dans la boîte, et du coup, on se partagera les parts de la boîte avec le taf qu'on a fait en amont. Et du coup, on a bossé un an et demi sur notre temps libre pour préparer la création de la boîte. Enfin, pour créer,
la boîte n'est toujours pas créée pendant ce temps-là.
Ah non, non, on est en fin 2012 quand on commence ça, et on l'a créé fin 2014.
Ah ouais.
Presque deux ans plus tard.
Donc t'as réussi à fédérer des gens sans les payer pendant un an et demi, ce qui est cool, avec une promesse de. En fait,
parce que je me payais pas non plus. C'était juste un projet, c'est un projet en commun et on voulait tous que ce truc existe. Mm. C'était trop beau, il fallait que ça existe. Et après c'est une question de ouais, est-ce qu'on arrive à partager le rêve, est-ce qu'on a la même vision, est-ce qu'on arrive à créer de la confiance. Moi, ça c'est un peu mon leitmotiv. J'essaie d'être très très honnête avec les gens et tout ce que je dis, je le fais. Et donc voilà, si on top là quoi. Donc on a topé là sur comment on allait s'organiser ensuite et on l'a suivi à la lettre. On n'a jamais dérogé de la règle et donc du coup la confiance est là et donc ça marche très bien. Et donc ouais, tout le monde y va à la fleur au fusil et c'était cool. Et alors après c'est cool et puis en vrai quand on a la règle aussi c'est que quand t'es pas focus ça avance pas. Donc en fait ça pendant un an on a fait beaucoup de réunions, on a avancé petit bout par petit bout mais ça avançait pas beaucoup. Et puis à un moment je dis bon maintenant faut qu'on y aille quoi. Donc là il a fallu un moment que je quitte mon taf pour que vraiment que ça bouge vraiment. Et donc là on est en 2013 et je quitte mon taf. Moi qui en plus cherche la sécurité. Donc là j'étais en mode ouh. Bon alors hasard de la vie, ma femme aussi finit ses concours de parce qu'elle a plein de elle fait pharmacienne hospitalière donc elle a des tonnes de concours avant d'arriver au bout. Et là elle est dans l'internat, elle a passé son concours, son machin. Donc elle c'est stable, elle a un revenu. Moi en plus j'ai bossé 4 ans donc j'ai le chômage. Parce que du coup, chômage, faut savoir que Pôle emploi est le premier investisseur dans la création d'entreprises en France.
Ah, ça, c'est sûr. Hein.
Donc, il me finance. Bah, en fait, je touche mon chômage pendant 2 ans. Donc, en plus, j'ai 2 ans devant moi de sécurité où je peux voir venir. Et donc, bah, allons-y. Surtout qu'à ce moment-là, en plus, je suis papa. J'ai ma femme qui est enceinte de la deuxième. Je dis, allez, c'est parti. Si on le fait pas, en fait, c'est jamais le bon moment. Si on le fait pas maintenant, on le fait jamais. Allons-y, quoi. Et donc, ouais, je quitte mon taf. Et c'est cool. Et après ça du coup ça accélère parce que du coup moi bah je passe mes journées entières dessus, mes soirées et mes nuits aussi. Donc mais ouais, j'y bosse 4 fois plus et du coup ça met aussi la pression sur les autres pour que ça avance et je me paye pas donc il faut qu'à un moment on rentre de l'argent aussi donc il faut qu'on arrive à créer quelque chose et c'est là qu'on lance, on se dit bon OK, il nous manque encore un peu d'argent, on va faire un crowdfunding. Et en plus c'est le moment en fait d'en parler une première fois publiquement parce qu'on a jamais parlé pour l'instant, ça reste un truc privé dans un coin, on est 4 dans notre coin à savoir ce qu'on fait. Et donc, on commence à lancer une recherche d'argent public sur une plateforme de crowdfunding. Et du coup, on commence à avoir aussi des gens qui s'intéressent à nous, à essayer de voir qui voit ce qu'on fait. On commence à fédérer une communauté. Et ça nous met aussi la pression. Parce que du coup, on leur a promis qu'on allait avoir un truc, donc il faut que ça sorte. Voilà, tout ça, ça nous met une pression et ça nous permet d'avancer vraiment vers la sortie d'un premier produit, Epopia. Ouais.
C'est on n'a toujours pas raconté ce que faisait ta boîte.
En vrai. Ouais, non, mais ça, c'est pas grave. Que fait ma boîte? Elle fait rêver les enfants, on l'a dit. Elle fait juste rêver les enfants.
Mais comment ça marche? C'est quoi le concept en fait?
Alors le concept, c'est que t'as 8 ans, tu travailles un matin, tu vas à la boîte aux lettres, parce que les enfants aiment bien aller à la boîte aux lettres, et là tu découvres une enveloppe avec ton nom dessus. Là tu dis, waouh, pourquoi je reçois. Enfin, tous les enfants adorent recevoir du courrier, hein. Moi le premier quand j'étais gosse. Et donc tu te jettes dessus, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est, qui c'est, d'où ça vient? Tu l'ouvres, t'en sors, et là tu sors une couronne, la carte d'un royaume lointain, tu sors des autocollants, tu sors un diplôme royal. Pourquoi quoi? Et là du coup, il y a des lettres, et tu te mets à lire les lettres, et tu découvres que t'es élu roi d'un royaume. Ok, et dans ce royaume il se passe des trucs, et maintenant t'es roi, bah, c'est toi qui commandes, et les personnages, les gens qui habitent ce royaume, t'ont choisi, il y a une bonne raison de t'avoir choisi, et c'est toi qui dois leur dire quoi faire. Et du coup, ils disent, bah, aide-nous, dis-nous ce que tu dois faire, et là, t'es bon pour prendre un stylo. et écrire. Et tu dois écrire, leur répondre par écrit, envoyer ça par la poste. Et du coup, c'est toi qui décides de ce qui va se passer. Après, tu reçois de nouvelles lettres. En fait, l'histoire va évoluer selon ce que tu as écrit. Et comme ça, il y a un échange qui va se passer. Et alors, le trip, c'est qu'en plus, le truc, il est... Tu reçois une couronne, tu reçois un diplôme, tout est, il y a pas de marque, il y a rien, t'es vraiment dans l'histoire, le truc est, enfin c'est vrai quoi. Pour l'enfant, c'est un, il peut s'il a, enfin il joue à que ce soit vrai, mais pour lui, il y a pas, il y a rien qui vient lui dire que c'est faux. C'est, il est dedans et il le vit vraiment, c'est hyper immersif, c'est hyper fort et ouais. Et puis il y a des objets qui viennent donner vie au truc quoi. Tu trouves la fleur magique dans l'histoire, le personnage t'envoie des graines. Donc la fleur magique, il y a une fleur qui pousse dans ta chambre. Mais c'est pas une fleur, c'est la fleur magique de ton royaume. Et si la fleur, elle prend vie, ton royaume, il prend vie. Tout prend vie. En fait, vraiment, c'est un truc qui explose ton imaginaire. D'un coup, waouh, le champ des possibles explose. Et c'est ça, en fait, qui est beau dans le projet. Et c'est vraiment ce côté très poétique à travers le courrier qui, voilà. Et ouais, je sais pas, je pense que je l'ai assez résumé. Parce qu'après, des dimensions, il y en a des tonnes, mais je vais pas faire l'article.
Si, tu peux un peu, parce que moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir... Qu'est-ce qui fait que t'as eu envie de... Au-delà de l'aspect faire rêver les enfants et des courriers que t'aurais bien aimé recevoir, t'as une démarche aussi, j'ai un peu l'impression, de sors ton stylo, sors ton papier, et en fait tu vas aller à la poste pour envoyer une lettre. Plus personne ne fait, quoi, vraiment.
On est en 2019 et on fait prendre un stylo aux enfants. Oui, tout à fait.
C'est quoi ton objectif, en fait? C'était vraiment de les inciter à revenir à ce, je sais pas, à cette relation épistolaire qui n'existe quasiment plus, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai deux filles qui ont 11 et 13, elles ont pas de pen pals, quoi, tu vois, c'est l'un des, moi j'avais des pen pals quand j'étais gamin, quoi, tu vois, à qui on écrivait, ouais. Elles ont plus ça n'existe plus, elles leur envoient des emails, tu vois.
Alors qu'est-ce qui m'animait profondément? Je pense que profondément, l'idée parlait vraiment à l'enfant en moi. J'ai pratiqué beaucoup de jeux de rôle. Et au final, Epopia, c'est un espèce de jeu de rôle par courrier postal. Donc, pour ça que j'arrivais bien à le voir, le truc. C'est un truc qui m'éclatait. Et j'avais déjà fait, en plus, dans ma jeunesse, dans les années lycée, j'avais déjà animé des jeux de rôle par email. C'était une horreur. Mais du coup, je connaissais en plus la dynamique de faire du jeu de rôle par écrit, à distance. Mais il y avait, et puis ça résonnait avec l'anecdote que je raconte toujours, parce que, en vrai, ça résonne vraiment. Quand j'étais gosse, vers 8 ans, je reçois une lettre dans la boîte aux lettres à mon nom, et dedans il y a une clé de voiture. Et je suis gosse, donc je suis trop heureux, quoi. J'ai une clé de voiture, donc il y a une voiture quelque part qui m'attend, et il y a une lettre qui dit que j'ai gagné une voiture, qu'il faut aller chez le concessionnaire pour tester la clé.
Ah oui, ce fameux truc.
Mais ouais, la pub, on s'est tous bouffé la pub. Mais moi, ce truc-là, il m'a éclaté. Je l'ai lu et je l'ai relu, et j'avais cette clé, je l'avais toujours sur moi parce que j'avais une voiture. S'il y a une clé, il y a une portière, il y a une serrure, donc tout prend vie, quoi. Et ce truc, et moi, j'avais répondu à cette lettre, ce qui est complètement con, personne ne m'a jamais répondu. Et pourtant, à l'époque, je n'aimais pas lire, je n'aimais pas écrire. Mais ça avait marché. Et c'est un truc ça m'a repopé. Quand j'ai lu des Epopia, ça m'a repopé le truc. Je me suis dit, mais la clé, ça change tout. Et aujourd'hui, dans Epopia, tu deviens directeur d'une réserve naturelle, tu reçois la clé du parc. Et si t'as une clé, la serrure, le portail, le parc prend vie. Parce que la clé, elle est physique, c'est pas une image dans un email. Et du coup, ce truc-là, il est hyper fort. Et il y a un autre truc qui résonne aussi, c'est... tu dois connaître aussi, c'est ta génération, L'Histoire sans fin. Oui. De Michael Ende. Et L'Histoire sans fin, moi, c'est un truc qui m'a énormément marqué dans ma jeunesse. J'adorais ce truc, je l'ai vu plein de fois. Et ce gamin qui lit un livre, et d'un coup, dans le livre, il y a une description de lui. Hein? Et puis d'un coup il crie, je sais pas pourquoi il crie, parce qu'il a peur, il fait non, et dans le livre il y a les personnages qui disent, c'est bizarre, j'ai entendu un nom, qu'est-ce que c'était, mais pourquoi quelqu'un a crié, il dit, hein? et le gosse il comprend pas, il y a un truc qui va pas du tout, et à la fin il se retrouve même à parler et les personnages dans le livre l'entendent et lui répondent, et l'histoire, il est vraiment, et en fait se casser ce quatrième mur, en fait ça rebondit pas mal avec le fait de faire ce qu'on attend pas de nous. J'adore casser des murs, en fait. L'Histoire sans fin, il brise ce quatrième mur, et en fait quand j'ai eu l'idée des paupières, je me dis, mais en fait ça, moi j'ai fait les livres dont vous êtes le héros, j'ai vu les livres personnalisés où on met les prénoms des enfants, tout ça c'est hyper gadget, mais ça va jamais très loin. Et là je me dis, mais en fait on peut enfin faire L'Histoire sans fin en vrai, et c'est pas juste tu lis l'histoire du mec qui a reçu un livre, tu vas pouvoir toi être Bastien et recevoir un livre, et tu vas leur parler, et les mecs vont t'entendre, et les livres vont s'écrire selon ce que tu vas leur dire. C'est juste ce truc m'a... Enfin, c'est... Ouais, ça, dans mon imaginaire, ce truc est juste tellement énorme. Je me dis, mais ouais, il faut le faire. Et pour les enfants, pourquoi pour les enfants? Parce que, enfin, moi, je leur ai kiffé ça, enfant. c'est, de toute façon, ça rebondit avec mes histoires d'enfance, le jeu de rôle, l'histoire sans fin, la clé de voiture, ça a marché quand l'imaginaire est le plus vif, le plus prêt à s'ouvrir et à se déployer quand on est adulte, ça sèche pas mal quand même. Sauf chez les créatifs, ceux qui l'entretiennent. Mais en fait, ça s'entretient, l'imagination. Sinon, ça sèche vite. Et c'est vrai que quand on est gosse, on se laisse embarquer. Et c'est à ce côté-là de se laisser embarquer. Et en plus, à côté de ça, grâce à l'exemple de la clé de voiture, bah, je savais que moi, ça m'avait permis de lire. Le truc qui avant était une difficulté pour moi était devenu simple. Ça m'avait fait écrire alors que je détestais ça. Et je me dis, mais en fait, il y a un vrai truc, quoi. Ça, ouais, ça explose dans tous les sens. Ouais, ça...
Ce que tu précises pas, c'est que les enfants écrivent et en fait, t'as des auteurs derrière.
Bah, du coup, ouais, il faut
qu'ils leur répondre.
Bah, du coup, il faut que l'histoire avance en tenant compte de ce qu'ils nous ont écrit. Donc, les enfants, on reçoit aujourd'hui 100, 200 lettres par jour d'enfants. On les ouvre, on les lit et on va adapter la suite de l'histoire. Alors, il y a toute une partie d'histoire. Nous, après, on essaye quand même d'avoir des routes prédéfinies parce que sinon, c'est trop compliqué. Donc, on a des trames prédéfinies où les enfants vont nous suivre ou pas. Quand les enfants nous suivent pas, parfois, quand il y a plein d'enfants qui nous suivent pas sur une trame, et ben, on ouvre des nouvelles trames. On peut ouvrir des routes. Au tout début, dans la première version, on avait, donc l'histoire du royaume, il y avait plein de choses qui se passaient. Puis il y a des gosses qui disaient, bah, moi je m'en moque, moi je veux juste aller faire la guerre aux voisins. Et ben bah, ok, au bout du troisième enfant qui nous a dit je veux faire la guerre aux voisins, on a écrit une trame où on faisait la guerre avec tous les voisins. Et c'est parti. Et du coup il y a des enfants qui rentraient dans cette voie. Et ensuite, mais en fait le truc c'est que c'est pas comme vous êtes le héros, c'est juste je vais à gauche ou je vais à droite.
Ouais.
C'est que en fait il nous écrit sur papier libre, il peut écrire ce qu'il veut. Donc donc les enfants ils nous racontent leur vie, ils nous posent des questions, ils nous donnent des ordres de n'importe quoi. Et bah, si tu veux que ton truc fonctionne et que la magie opère, il faut y répondre. Donc, il faut vraiment tenir compte. Et donc, nous, on a des enfants qui nous disent, est-ce que je peux ouvrir une école de magie dans mon royaume? Parce qu'ils ont lu Harry Potter juste avant. Et tu fais, bah. Et donc, dans la réponse, il va y avoir, super, effectivement, on a demandé à la grande magicienne, elle a organisé le truc, on a réservé une aile du château et maintenant on accueille tous ceux qui sont apprentis magiciens et ils vont là-dedans et on te tiendra au courant s'ils ont des bonnes notes. Et voilà, l'enfant, il a été lu, il a été entendu et il a un retour sur ce qu'il a écrit. Et ça, c'est un truc qui n'existe nulle part. On est seul au monde à faire ce truc-là. Il n'y a aucun équivalent et c'est tellement waouh. Enfin, même moi, ça me va encore waouh au bout de 7 ans.
vous avez 50 000 mômes, c'est ça qui...
Ouais, il y a 50 000 enfants qui ont déjà reçu des lettres dans des Popia à la maison.
Comment vous... Alors ça, là, c'est là que j'imagine que ton passé d'informaticien et quand tu disais on a commencé à monter un pro, t'avais commencé à taffer sur un programme, etc. C'est là que j'imagine que il doit y avoir à un moment donné une forme de traitement. Alors je rentre un peu dans le truc, mais moi tout de suite je me dis comment ils font pour suivre. Alors je sais pas combien vous avez de mômes qui vous écrivent en même temps de ce fait-là.
Bah comme 100 à 200 par jour.
Ouais.
Donc ça en fait un petit millier par semaine. Entre 500 et 1000 par semaine, entre 2000 et 4000 par mois. Ouais. Aujourd'hui, hein, parce qu'on aimerait bien, on veut grandir. Hein. Donc le but, c'est de pouvoir en faire encore plus. Mais effectivement, on a créé un logiciel qui s'appelle Lyrec derrière, qui en fait accompagne les écrivains et qui bah, notamment gère toute l'arborescence de textes. Donc tous les textes, tout ce qui est déjà écrit, tout ce qui est déjà existant, est stocké dans un logiciel avec. Mais en fait, c'est pas vraiment du texte, c'est du code. Il se rechange tout seul selon des paramètres. Il peut passer au masculin, au féminin, au singulier, au pluriel. Il applique les règles grammaticales automatiques. Donc, on va beaucoup plus loin de tout ce que fait les textes à trous habituels, les livres personnalisés. Nous, il suit les règles de grammaire et il peut, enfin, ça fait vraiment des trucs de fou. Et puis, il y a plein de règles. Il y a les paragraphes qui, selon des choix ou pas, s'affichent ou pas. Il y a des trucs qui sont de manière aléatoire. Il y a plein de voix différentes. Donc, il y a plein de couches. Et ensuite, on a des collections. Du coup, à chaque fois qu'on lit un lettre d'enfant, il y a les choses qui sont déjà écrites et qu'on va pouvoir réutiliser. En fait, c'est un peu un pari statistique, Epopia. Les 1000 premiers, ça a été la folie. Les 100 000 suivants, on a 90% qui vont passer par des routes qu'on a déjà écrites, qui vont poser des questions auxquelles on a déjà répondu. Donc, on a aussi des collections de paragraphes. À chaque fois qu'un écrivain écrit un paragraphe, il est stocké et il y a des manières d'aller le rechercher assez facilement. Et donc, on a aujourd'hui sur chaque histoire plus de 2000 paragraphes qui viennent répondre à des questions, à des demandes, à des choses en plus. C'est parfois des dessins. Il y a des gens qui demandent où est ma chambre dans le château. Ben, on a le plan du château qui est dessiné. Et parce que à force qu'on ait la question, il fallait qu'on la résolve. Et donc, voilà, en fait... au début, c'est compliqué. Et puis, au bout d'un moment, il y a un pari statistique qui fait que bah, on commence à pouvoir réutiliser aussi tout le travail qu'on a fait pour les uns peut servir à d'autres. Et en même temps, on a toujours une partie qui demande des choses qu'on n'a jamais vues. Donc, on a toujours de la créa qui continue. Et en fait, on a une histoire qui n'est jamais vraiment écrite. Elle s'écrit avec les enfants et elle grossit. En fait, plus le temps passe, plus elle peut gérer de cas et plus elle devient gigantesque. C'est un truc... ça fait dans 10 ans, ça va être tellement beau.
Ça fait un peu penser au MMO. C'est qui étend l'univers au fur et à mesure que le temps avance et que les joueurs avancent dedans, quoi.
Ouais, sauf que là, en plus, c'est les joueurs qui nous disent en fait vers où il faut qu'on aille. Ouais. Alors, je sais pas, j'ai arrêté les jeux vidéo il y a longtemps parce que j'ai plus trop le temps. Mais
moi aussi, hein, je t'avoue.
mais c'est vrai qu'en général, on ouvre des nouvelles cartes, on ouvre des nouvelles quêtes. Mais c'est pas les nous, c'est si ouais. les enfants veulent absolument un truc, c'est par là qu'on va essayer de suivre un peu leur direction et leurs envies. Et mais oui, il y a un peu une logique là-dedans.
Si je me trompe pas aussi, t'as plusieurs centaines d'écoles qui vous suivent, c'est ça?
Ouais, alors en fait au début on avait assez vite, on a des profs qui disaient mais c'est génial, mais on veut l'utiliser avec la classe. On a fait bah ouais, mais c'est pas trop fait pour, c'est personnel, c'est avec un enfant. Donc on a dit bon, bricoler une petite lettre où vous dites qu'un enfant l'a confié à la classe et puis il fait, et puis vous pouvez l'utiliser un peu. Du coup les lettres seront toujours envoyées en fait à l'enfant inventé qui lui le confie à la classe. Bref, on proposait aux profs s'ils voulaient vraiment l'utiliser, puis au bout d'un moment et après, vous disiez, mais ok, ça marche bien, c'est génial, les enfants sont tout fous, ça nous permet de faire plein de trucs géniaux avec eux. Vous pouvez pas vraiment le faire un peu plus proprement, quoi. Donc, on a commencé à passer aussi les textes au pluriel. Donc, aujourd'hui, la même histoire peut s'adresser à un groupe. Et donc, la classe, par exemple, devient grand conseil du royaume. Et toute la classe ensemble doit prendre ses décisions. Et donc, ouais, on a plus de 500 classes qui l'utilisent. Et c'est assez marrant parce que, nous, au début, on s'est dit, bah, c'est bien, ce fera l'exercice de lecture et d'écriture dans un contexte qui est un peu plus ludique. Mais en fait, les profs, ils nous disent, mais c'est ce qui est surtout fou, c'est qu'ils sortent de classe et dans la cour de récréation, ils sont tous en train de discuter que de ça. Non, il faut faire ça. Non, moi, je pense qu'il faut donner tel ordre. Et en fait, toute la classe, elle est fédérée autour de ça.
Ensemble.
Et ensemble, ils sont tendus vers un but de, il faut les aider, il faut qu'on fasse la bonne décision. Et c'est un effet fédérateur et un effet de motivation qui fait qu'après, tout ce qu'on va amener à travers ces univers va devenir un jeu pour les enfants. Et vraiment, on mixe le ludique avec le pédagogique d'une manière assez cool.
Je pense que j'ai plein de jeunes profs qui m'écoutent. Vraiment. On mettra un lien dans la description si jamais ils veulent te contacter, parce que à mon avis, ça va peut-être ouvrir des envies. Très bien. Et donc tu dis, vous êtes combien de salariés aujourd'hui?
On est 20 dans l'équipe.
Ok.
On s'est arrêté en 2014, mais en 2013, mais ouais, on a assez. En fait, dès qu'on a lancé, on a vite eu du monde. Donc, il a fallu recruter pour gérer, parce qu'au début, ça se faisait avec mon imprimante dans mon salon. Et...
Non, bref.
Et c'était un peu compliqué. Non, mais c'était compliqué. L'imprimante n'était même pas recto verso. Il fallait imprimer une face, puis retourner la feuille, puis imprimer l'autre. Ça a été tellement la galère.
C'est ça, les vrais projets qui démarrent dans les salons avec les matos.
Non, mais de un an et demi plus tard, on a beaucoup galéré pour trouver le marché, à qui on s'adressait et comment faire connaître Epopia. Quand on a commencé à réussir à le faire, on est passé, donc on a mis un an à avoir 1000 parents qui nous suivent, et puis d'un coup on est passé à 12 000 en 4 mois. Et là, oui, même avec le matos qu'on avait, c'était l'horreur.
Que tu fais comment là, de ce fait là il faut tout structurer la boîte.
Ouais, sauf que on n'était pas les stocks, on avait rien, notamment on avait l'imprimante, on avait l'imprimante recto verso maintenant dans le bureau, mais en fait la courroie elle est faite pour tenir 10 000 copies. Donc en fait, en deux jours, on tuait une imprimante, il fallait en acheter une autre. Et on passait des nuits blanches à faire tout le truc. Enfin, tout n'était pas structuré comme aujourd'hui. Il fallait 20 minutes par courrier à l'époque. Donc c'était une horreur. Aujourd'hui, on a vachement optimisé les choses et on est beaucoup mieux organisé. Mais c'est vrai que les crises de croissance, il y a des boîtes qui en meurent, hein, de crises de croissance. Bon, nous, on a réussi à survivre à chaque étape. Mais du coup, l'équipe a grandi. Et puis à chaque fois qu'on a réussi à avoir du succès, de toute façon, nous, on réinvestit tout dans l'humain. Le but, c'est d'aller plus loin. Donc, notre but, c'est de dire que ce qu'on fait est trop beau pour le garder juste pour ceux qui y sont aujourd'hui. Donc, il faut qu'on arrive à l'offrir à un maximum de monde. Et pour ça, il faut plus d'énergie, plus de structuration, plus d'histoire. Et donc, on a une équipe qui grossit encore et encore et encore.
Vous avez plusieurs histoires, alors, c'est ça, désormais? J'ai même vu qu'il y avait des licences, c'est ça?
Ouais.
Vous commencez à taffer des licences avec les Schtroumpfs et tout. C'est...
Ouais, ça, c'était un peu un rêve aussi de ce qu'on voulait faire. En fait, on a commencé par faire donc le royaume. Puis on a demandé aux parents ce qu'ils voulaient et les parents nous ont dit nous les enfants adorent les animaux, donc après on a fait la réserve naturelle, donc trop cool. Et après les parents nous ont dit on adore les dinosaures, donc on a fait les dinosaures, voyage temporel autant les dinosaures. Donc faut voir, parce que le trip aussi de dire que l'enfant est le héros, c'est que nous du coup l'enfant reçoit un message envoyé par une machine temporelle au Crétacé qui lui explique que il est cassé, il y a un mauvais atterrissage de la machine. Du coup, il essaie de contacter l'inventeur de la machine, mais comme elle est cassée, elle a un peu du mal, elle se trompe dans les années. Donc du coup, elle le contacte quand il est encore enfant. Bon, ok, c'est un enfant, mais en même temps, c'est la personne la plus intelligente du monde, vu que dans quelques années, il va inventer la machine à voyager dans le temps. Donc c'est pas n'importe qui.
Donc, c'est trop fort.
Et donc du coup, c'est l'enfant. Non, parce que c'est aussi le trip des Popia, c'est aussi de dire, on te met aux commandes, tu deviens roi, tu deviens directeur, et on te donne confiance en toi. Tu as ce côté-là aussi où on te donne des responsabilités de grand, et quoi que tu fasses, tu vas les réussir. Il y a pas, c'est pas comme vous êtes le héros où on perd toutes les deux pages. Là, t'es toujours valorisé dans ce que tu, dans tes choix, et donc on s'est vraiment donné confiance.
C'est vrai qu'on perd de ouf dans les livres dont vous êtes le héros.
C'était l'horreur. Bah, ceux qui définissaient sont ceux qui trichaient. À droite, je meurs, donc maintenant je vais à gauche.
Ah oui, c'est vrai.
Et moi, je détestais ça, parce que moi, quand j'étais gosse, à droite, je meurs. Ok, retour au chapitre zéro. C'est reparti. Donc moi, je faisais trois fois le livre et puis j'abandonnais parce que c'était mort.
Ouais, je comprends.
Et enfin, c'était affreux. Mais donc,
c'est pas punitif en tout cas, ouais. Epopia.
Ah, nous, au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est que les enfants prennent confiance en eux et du coup, ça, ils prennent. Ouais, on veut faire des adultes heureux et on veut qu'ils grandissent avec nous. Donc et donc du coup, il y a ce côté-là de ok, en fait, tu es déjà la personne, l'enfant le plus intelligent du monde. Tu le sais pas, mais t'as un potentiel énorme en toi. Et c'est un truc qui nous fait vraiment triper.
Ah, trop bien.
Et donc, voilà, on a fait ces histoires-là. Et en fait, notre objectif derrière, parce que le but, c'est pas juste de faire un petit truc sympa. Nous, ce qu'on veut, c'est conquérir le monde. Et en fait, on a des objectifs qui sont assez... Il y en a qui disent fou. Moi, je trouve ça hyper raisonnable. Mais en gros, dans 5 ans, on fait la suite d'Harry Potter.
Ok.
Les 7 premiers tomes, j'avoue, je kiffe bien. Le 8e, c'était une pièce de théâtre. Elle a été joueuse. Mais bon, c'est un peu... Bon, elle a joué avec le temps, quoi. C'est un peu le truc quand on n'a plus de scénario, quand on joue avec le temps. Hein. C'était ni fait ni à faire. Mais elle a osé faire du théâtre. Elle a dit, le tome 9, ce sera en Épopia. Vous deviendrez, les lecteurs deviendront ministres de la magie et devront dire à Harry, à Ron et Hermione, qui sont dans les différents ministères, ce qu'ils doivent faire pour sauver le monde de la magie. On n'a pas encore le scénar, hein. Mais en tout cas, le tome 9 d'Harry Potter, ce sera de l'épopia, et ce sera pas que pour les enfants, ce sera pour le monde entier. Et
t'as déjà appelé J.K. Rowling en disant « Salut !»
On a déjà eu 2 rendez-vous avec Warner, nous ont dit « Les licences, ça passe directement par J.K. Rowling. Mais comme on est encore qu'en français, on se dit d'abord, les étapes, d'abord... On arrive à faire des licences, donc on arrive à aller sur des univers qui existent déjà et à voir comment on adapte le Épopia pour voir si on y arrive. Et donc là, on a fait les Schtroumpfs et c'est juste, enfin, moi je suis hyper fier, l'histoire elle est géniale. C'est juste énorme. Donc l'enfant devient le premier assistant du grand Schtroumpf et là, il y a des problèmes dans la forêt. Il se retrouve à aller visiter le village des Schtroumpfs, visiter la forêt. Il finit dans la maison de Gargamel, à une course-poursuite avec Azrael et c'est l'enfant qui est aux commandes. Et en plus, il y a le village des filles. Il y a tous les autres parce qu'il y a aussi le village des filles maintenant chez les Schtroumpfs. Ce qui était un peu important pour nous parce qu'on essaie de toutes nos histoires sont non-genrées et donc les Schtroumpfs, on voulait qu'il y ait aussi autant de filles que de garçons. Mmh. Et en fait, depuis 2017, il y a un village des filles et donc c'est vachement top. Et voilà. Et donc, on a réussi vraiment à le faire top. Maintenant, là, on est en train de faire Miraculous, Miraculous Ladybug, alors qu'il y a encore toute autre chose. Mais justement, on a fait l'étape d'abord de OK, une histoire que tout le monde connaît, les parents, dans un univers aussi un peu médiéval fantastique. Donc, on reste dans un univers assez proche des jeux de rôle. Le suivant, on va se mettre un peu plus en danger. Un univers que les enfants kiffent et que les parents connaissent pas particulièrement.
Bah, sauf si t'es devant la télé.
Les parents savent que leurs enfants kiffent, mais ils savent pas trop ce que c'est.
Ouais.
Je pense pas qu'ils soient fans des chats noirs et tout ça.
C'est trop bien, pourtant. Regardez,
un fan. Cool.
Ah non, mais alors, mes filles sont plus grandes maintenant, donc elles ont un peu laissé ça de côté, mais vraiment, elles ont bouffé à fond la caisse.
Je suis assez critique sur ce qui passe à la télé en général. Et Miraculous, je trouve que ça surnage très largement en termes de scénario, en termes de création de personnages, tout ça. Enfin, c'est assez bien fait. Et du coup, et en plus, dans un univers qui est contemporain, ça se passe à Paris, on a un univers géographique hyper restreint, une licence assez restrictive, on peut pas créer de personnages, on peut pas créer de nouveaux méchants, on peut pas trop jouer avec les règles de l'histoire parce que le scénario continue à avancer à la télé, donc on peut pas inventer des trucs qui sont pas dedans, donc on a plein de contraintes et on s'est dit ok, on va le faire et on est en train de faire un truc qui va être top. Voilà, ça va être top. Et du coup, voilà, comme ça on arrive déjà à prouver qu'on arrive aussi à faire des univers qui sont contraints, on sait les gérer. Derrière, l'année prochaine, le but, c'est de passer en anglais.
Ok.
Voilà. Dans 2 ans, on est commencé à être connu en Angleterre, aux États-Unis. Et là, J.K. Rowling, elle a entendu parler de nous. Et là, on peut, par Warner, aller taquer à la porte et faire « Bon, on a un truc énorme. C'est quand qu'on fait Harry Potter ?»
Alors, j'ai envie de dire, c'est limite le plus simple dans tout ce que vous avez fait de juste traduire ce que vous avez fait ou pas du tout. C'est un peu raccourci.
Alors je sais pas parce qu'en fait ça a toujours l'air simple avant qu'on le fasse et puis quand on est dedans c'est toujours hyper compliqué. Non mais après c'est pas juste de la traduction parce qu'en général il faut réécrire et il faut adapter. Mais bon on l'a pas encore fait donc je peux pas m'avancer sur le niveau de complexité.
Tu vas pas pouvoir rester qu'à 20 en tout cas, ça c'est sûr.
Non ça c'est clair. Mmh. Ouais, c'est de toute façon il y a un volume de courrier à gérer qui est ouf. C'est pas le même marché. Hein. En fait le marché anglophone est beaucoup plus vaste que le marché francophone en tout cas. Le marché français, parce que la francophonie, c'est énorme. Mais bon, voilà. Je me projette pas trop, parce qu'en fait, je l'ai dit à un moment, moi, je suis plutôt un mec dans la sécurité, je sais où je vais. Et en fait, depuis que je suis dans cette aventure, on nage dans l'incertitude permanente. on sait pas ce qu'on fait, on sait pas où on va, on sait pas comment on le fait, on sait pas ce qui va marcher ou pas, et on passe notre temps juste à se dire, en fait, si je regardais en face réellement et que j'analysais les choses, ça fait longtemps qu'on aurait tout arrêté, parce qu'il y a aucune raison de faire ce qu'on fait, tellement c'est, on est à contre-courant du marché, on est à contre-courant de toutes les tendances, tout le monde va vers l'écran, nous on dit, eh non, oubliez l'écran, nous on revient sur le papier, on va prendre un stylo, wouh! Tout le monde fait du numérique, c'est facile, parce que c'est en un clic, il n'y a pas de problème d'infrastructure, il faut juste avoir un serveur. Non, nous on va gérer du papier, des objets. En plus, chaque courrier sera différent. Donc, selon ce que l'enfant a choisi, il va pas recevoir les mêmes objets. Donc, en fait, chaque courrier doit être fait à la main séparément. Donc, il y a aucune optimisation. On a un niveau de complexité dans tout ce qu'on fait où à chaque fois on prend la voie la plus compliquée. Même en littérature. En littérature, les gens font, ouais, on va faire un livre pour enfants. Ok, écrivons une super histoire. On fait, non, mais en vrai, les enfants, il y en a qui ont du mal en lecture, d'autres qui sont plus à l'aise. Ok, écrivons trois fois l'histoire dans trois niveaux de langage différents et comme ça on va pouvoir adapter à l'enfant et si l'enfant est pas à l'aise, il pourra monter ou descendre le niveau au fur et à mesure de l'histoire. Soyons fous. Et à chaque fois comme ça, on essaie de poser des limites qui nous mettent un niveau de complexité assez fou dans tout ce qu'on fait.
Waouh.
Donc du coup, j'évite de trop regarder si ça va être compliqué. En fait, la question c'est est-ce qu'on y va ou on n'y va pas ? Et on y va. Et après, on assumera.
Ouais,
on réglera les problèmes.
Est-ce que t'en as envie, quoi ? C'est ça le truc, quoi.
Ouais, on en a envie. Et donc on va faire Harry Potter dans 5 ans et dans 8 ans on a racheté Walt Disney.
Ouais,
c'est l'objectif, c'est écrit dans notre business plan. Dans 8 ans
tu rachètes Walt Disney.
Ouais, alors la phrase entière c'est on rachète Walt Disney, c'est Disney nous a pas racheté entre temps. Mais ça c'est une hypothèse qui est assez basse. C'est plutôt le fait qu'on rachète Disney. C'est pour ça que moi j'ai un peu les nerfs quand ils rachètent Star Wars, quand ils rachètent Marvel, je me dis mais ça fait monter le prix. Ça me met la barre plus haute à chaque fois.
Il va falloir casser ta tirelire.
Non, mais sérieusement, en fait, dans
est-ce que t'es toi-même en train d'écrire une propre histoire à toi de où t'es le chef d'entreprise de Popia et que tu écris toi-même une lettre à des gens, des auteurs à toi qui te renvoient des trucs ou tu
non, ça je le fais pas. Mais au début, j'écrivais moi-même les histoires. Donc à un moment, j'ai donné ça à des écrivains. J'ai arrêté, mais j'ai fait tous les métiers en fait. Au fur et à mesure, je spécialise et j'arrête de faire tout. Mais en fait, la référence à Disney est pas complètement folle parce qu'en fait, quand on regarde l'histoire de Walt. Walt, je l'appelle Walt parce qu'avec Walt, on est...
Vous connaissez bien.
On a un peu le même parcours.
Vous êtes poteau.
et en fait, Walt, il fait ses petits dessins animés comme tout le monde. Là, il est en concurrence avec plein d'autres studios. Et puis à un moment, il a une idée folle. Il se dit, mais personne ne fait ça. Mais si je faisais un long métrage animé et tout le monde le traite de fou et personne ne fait ça, c'est contre-intuitif, c'est contre le marché, c'est contre tout, c'est hyper cher. Il n'y a pas de marché pour ça. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Et le mec, il y croit, et il galère pendant des années. Le truc qui devait être fait en 1 an et demi, il va mettre 3 ans à sortir. Il doit le refinancer, le refinancer. Et personne n'y croit, tout le monde le traite de fou. Et à la sortie, Blanche-Neige, c'est un tel succès qu'en fait, quasiment tout l'Empire repose sur Blanche-Neige. Hein. Les Pinocchio, les Dumbo et compagnie n'ont jamais été au niveau de Blanche-Neige. Et derrière, il crée toute une série de films qui sont quand même assez géniaux et qui, par rapport à... Enfin ouais, quand on voit la production en général, c'était pas mal quand même ce qu'il faisait. En termes de... Enfin, c'était bon à l'époque. Enfin, il y a eu des moments bons et des moments pas bons. Ça, je l'ai déjà dit. Mais après, derrière, il y a les parcs à thème. Enfin, le côté immersif où t'es fan de Disney, mais tu peux vivre dans le royaume de Disney et croiser les personnages et monter sur Dumbo. Et le côté vraiment immersif où on va jusqu'au bout du rêve et the dream comes true. Ouais, c'est ça, le rêve prend réalité. Si j'avais pu lui piquer sa punchline, je l'aurais bien prise. Parce que c'est exactement ce qu'on fait faire. Enfin, moi, c'est un peu, j'ai le même trip. Et nous, ce qu'on fait avec Epopia, on fait exactement le premier long métrage animé. Nous, on fait la première histoire littéraire, interactive et personnalisée par courrier. C'est un média, c'est un nouveau média. Il n'y a aucun équivalent. Et on est sûr que le jour où on l'aura fait, bah après, toutes les marques voudront l'utiliser, que ça deviendra. On veut en faire. Aujourd'hui, tout le monde fait du long métrage animé. Il y a plein de studios, c'est normal, ça choque plus personne. Bah demain, tout le monde voudra faire de l'Epopia parce que ce sera le média. Quand tu veux tisser du lien, quand tu veux connaître les gens, avoir une vraie relation avec tes personnages, pas juste les consommer. Même un livre, on tisse du lien, mais on tisse du lien à sens unique. On les vit intérieurement, mais on n'échange pas avec eux. Là, c'est la première fois où tu peux, ton personnage préféré, tu peux lui parler et il te répond. Et il t'a lu et il t'entend. Et voilà, on essaie vraiment de. Et pour moi, il y a une puissance et un truc, c'est vraiment le nouveau. C'est vraiment le truc qui va faire l'empire de demain culturel. C'est plus l'animé. L'animé, c'est has-been, c'est pas interactif. Et donc voilà, l'avenir, c'est Epopia, c'est la sur-interactivité, la sur-personnalisation. Le truc qui rend le rêve vraiment magique. Je pense que si Walt était là aujourd'hui, il aurait déjà foncé sur nous en disant mais je veux qu'on fasse un truc ensemble. Parce que. The dreams come true. Chez nous, c'est exactement ça, quoi. Désolé pour mon article, mon accent a coupé au couteau.
Mais ouais, alors tu le taffes un peu.
Ouais, je sais.
Ou alors t'assumes le côté français et I don't care. The road is
the yes needs a no to win again the no.
Et en fait, je pense que vous êtes dans le, comme tu le dis, mais je pense que tu le sais, mais vous êtes vraiment dans le turfu, parce que là, je vois que tous les parents sont complètement, effectivement, en train de foutre leurs enfants devant leur téléphone, etc. Mais en fait, ça peut pas continuer comme ça. Il y a un moment où il va y avoir une reprise de conscience de, bon, en fait, c'est facile, certes, mais c'est pas du tout interactif pour les enfants. Il faut leur parler, quoi. Je pense que, enfin, en tout cas, la prise de conscience est en train d'arriver, là, petit à petit, avec les temps d'écran, tu vois, que sur les téléphone de plus en plus, Apple, ils font « Oh putain, on va mettre les temps d'écran, il y a tous les temps d'écran partout », et puis tu finis par recevoir des notifications parce que t'as passé trop de temps d'écran sur ton téléphone. Ça, mais je pense qu'il va y avoir une reprise de conscience d'ici, à mon avis, 5, 10, 15 ans, quoi, tu vois, c'est pas possible autrement, quoi.
Mais en fait, ça, c'est un truc qui a... Nous, on est convaincus depuis toujours. Moi, j'élève mes enfants sans écran. Mais de toute façon, même Steve Jobs, quand il a créé les iPads et que tous les États les achetaient pour les distribuer dans les écoles et tout le monde en voulait pour leurs enfants, il disait « Non, mais moi, jamais je donnerai cette merde à mes enfants. » Et ouais. C'est une évidence. Et effectivement, aujourd'hui, le temps d'écran est hallucinant. Et c'est au-delà de la télé. Parce qu'en fait, maintenant, les écrans, ils étaient avant sur le canapé. Moi, j'étais accro à la télé quand j'étais gosse. Ça m'a bouffé. Et ça m'a bouffé mon imaginaire. Moi, je le ressens encore aujourd'hui. Ça a vraiment des impacts très négatifs. Mais aujourd'hui, quand on est dans la salle d'attente du docteur, on lit plus le magazine ou un petit livre. Les enfants prennent le téléphone. Dans les transports, les enfants prennent le téléphone, la tablette. En fait, maintenant, il n'y a plus de temps de décrochage. Et oui, ça a plein... Et les études s'accumulent les unes sur les autres. Alors, il y a encore un lobbying qui est très, très fort. Hein, parce qu'en vrai, les écrans, la télé, c'est tous les gens qui font de l'argent aujourd'hui. Ils n'ont aucun intérêt à ce que les gens arrêtent d'être accros aux écrans. Donc, il y a un lobbying qui est assez puissant et qui, parfois, est très inquiétant. Mais parce que ça marche bien, pour le coup. Mais les écrans, c'est une catastrophe. Les études qui montrent... Je pourrais en parler des heures, en fait. Hein. Je suis assez à fond dans ce sujet-là. Donc, j'essaye de pas trop me retenir. Mais ça a des impacts monstrueux sur les enfants. C'est un truc qui les bouffe, qui bouffe leur attention, qui bouffe l'acquisition du langage, qui bouffe plein de choses. Et ouais, moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il y a une tendance, une lame de fond qui fait qu'aujourd'hui, en tant que parent, on est inquiet. À un moment, on ouvre les yeux, on fait, mais en fait, il faut que je propose autre chose à mon enfant. Et nous, les parents nous disent, mais... Parce qu'en vrai, il y a déjà des livres, il y a d'autres choses. Mais merci de nous offrir enfin un truc interactif, un truc qui puisse faire concurrence. Un jeu interactif qui a tous les trucs du jeu vidéo, mais en fait, pas sur écran. Et merci de nous proposer enfin un truc qui nous permet de le décrocher. C'est vrai que les enfants, ils reçoivent la lettre dans la boîte aux lettres, ils lâchent la manette et ils courent à la boîte aux lettres. Ils veulent savoir ce qu'il y a dedans, ils veulent savoir ce qu'on leur a écrit, ils veulent savoir les conséquences de leur choix. Et pour nous, au-delà en plus de l'écran, il y a aussi la question du temps long. Qui moi me tient aussi vachement à cœur, c'est qu'aujourd'hui l'écran il est aussi dans le tout de suite, l'instantané. Les enfants savent plus gérer leur frustration et en vrai ça fait des enfants insupportables, mais ça fait aussi des adultes malheureux parce que le monde on vit dans la frustration permanente et si on sait pas la gérer on est juste dépressif. Alors ça fait des générations de dépressifs et ce côté de ramener le ok tu t'es investi mais tu vas quand même attendre que ta lettre arrive à la poste, puis qu'elle soit que les personnages puissent répondre, puis que ça repasse par la poste et que ça arrive jusqu'à chez toi. Et en fait, pendant ce temps-là, c'est pas juste que tu gères ta frustration, c'est pendant ce temps-là. Ah, mais est-ce qu'ils l'ont reçu? Ah, mais qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Ah, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et en fait, l'histoire, elle se passe dans ta tête et c'est là où l'imaginaire aussi, il prend une place énorme. Parce que ce temps d'attente, c'est un temps d'imagination, c'est un temps de plaisir, c'est un temps où l'enfant se construit et construit son monde intérieur. Et l'écran, il tue ça.
Ouais. Vous avez prévu de faire des histoires pour les ados? Parce que, en fait, j'imagine que vos gamins, là, qui ont reçu les trucs quand ils ont 8-10 ans, ils grandissent.
Oui. L'idée, elle est effectivement de pouvoir un peu avancer un moment. Alors, pour l'instant, on est très branché sur les 5-10. Effectivement, c'est les 5-10 ans de l'entrée à la lecture à la sortie du primaire. Pour des raisons simples qui sont que, pour les guider dans l'imaginaire, ils sont un peu moins à la recherche de... Enfin, le problème, c'est que plus on grandit... Alors déjà, les ados ont une phase où ils sont un peu en contradiction avec le monde de l'imaginaire. Ils sont un peu en résistance, ils sont dans le monde de l'hypersocial et ils n'ont pas envie de ça. Et donc, ça peut être plus difficile de les choper. Après, il y en a plein qui lisent quand même et qui aiment ça. Mais nous, on aime bien que les gens se laissent embarquer par l'histoire. Et les ados sont en mode... Non, mais c'est vrai, mais en vrai, bon, c'est pas vrai. J'aime pas le côté qui ça fait trop vrai. Bon, on essaie un peu de le faire un peu moins. On est plus dans le jeu maintenant. Et l'autre aspect, je me perds quand je parle.
C'était clair.
Non, mais l'autre aspect, c'est que surtout quand on est grand, on se dit, ok, c'est cool. Jusqu'où ça va? Et alors, on titille. Et on cherche la limite. Ah, moi, oui. je suis dans un jeu ouvert. Je marche dans la map jusqu'à ce que je trouve les bords de la map. Je cherche les bords de la map. Et dans les vieux jeux, je faisais ça tout le temps. Et en fait, chez nous, si les adultes, ils vont chercher la ficelle à tirer. Et ça, en fait, ça veut dire que chez nous, on va avoir les 5% de cas qui sont compliqués. On va en avoir d'un coup beaucoup plus. Donc, il faut qu'on soit prêt à l'absorber. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas le faire, mais on a des plans. On sait comment le faire. On veut devenir collaboratif, en vrai. On veut qu'à terme, la foule puisse créer des histoires épopiaques, que la foule puisse répondre les uns les autres aux gens, et qu'on puisse en fait co-créer ensemble des histoires. Et du coup, bah, la suite d'Harry Potter, en vrai, quand il y aura des millions de lecteurs, parce que Harry Potter, c'est le tome 8 qui était pas terrible, c'était 80 millions de vendus en 2 ans, donc c'est juste un volume. Mais ça, c'est pas nous qui allons y répondre. Il faut qu'il y ait aussi une communauté qui derrière ait envie, parce que c'est drôle de lire, c'est drôle d'apporter quelque chose en face. Et donc nous, on veut vraiment rendre le truc aussi collaboratif jusqu'au bout, et que les gens, enfin, que ça devienne un. Et à partir de là, on pourra mettre aussi des adultes dedans, ouais. Et des ados, et faire des trucs encore plus fun. Ouais. Ouais, c'est le turfu, comme tu dis. Je vois que t'es aussi un peu dans le verlan.
je suis un vieux qui parle comme les jeunes.
Laisse béton.
Par contre, dis pas laisse béton.
Ça, il y a une limite, en fait, c'est ça. Parce que les gens font un peu, mais en fait, quand tu dis laisse béton, les gens font non, hey, il y a une frontière quand même dans la bienséance. Là, mec, tu vas trop loin. Désolé.
Merci beaucoup, Rémi, en tout cas. C'était super.
Bah, merci à toi.
À bientôt.
Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.